Cours de philosophie première par le permis Dominique Philippe, le 11 avril 2002 à Saint-Judas.
Après avoir vu, essayer de préciser ce qui étaient les éléments essentiels, caractéristiques de la personne, il faut voir maintenant la manière différente dont on peut voir, c'est pas une synthèse, mais un ordre, c'est beaucoup plus ça. Je crois que dans toute personne humaine, on retrouvera ces éléments que nous avons précisés. Mais on les verra dans un ordre particulier. Il suffit de regarder la personne d'un artiste, à la différence de la personne d'un père de famille ou d'une mère de famille. Il y a des mères de famille qui sont des types très marqués d'une personne pour voir les différences. Et même quelquefois, on les opposera. Ce qui n'est pas juste. Parce que grâce à ces éléments qui constituent la personne, ces six éléments, parce que on n'a pas précisé le septième élément, ce serait l'attitude religieuse. Mais au point de vue philosophique, vous comprenez qu'on ne peut poser ce septième élément qu'après avoir prouvé l'existence de Dieu. Et je crois qu'on doit voir la personne humaine avant. C'est important. Mais il est évident que le septième élément, c'est l'attitude religieuse. L'attitude religieuse est quelque chose de tellement fondamental que ça fait un type de personne tout à fait différent, ce qu'on verra du reste. La personne religieuse, c'est vraiment une personne d'un type particulier. Et elle reste humaine. Et donc celui qui refuse l'attitude religieuse, voilà, un type de laïcité très poussé à la française, et qui refuse le point de vue religieux comme un élément constitutif de la personne, et quelque chose est une attitude très grave, parce que la personne humaine reste ouverte à cette septième dimension, qui serait l'attitude religieuse. On le verra ensuite. J'aime mieux voir avant, parce que c'est plus philosophique, c'est plus vrai, voir avant ces six éléments constitutifs de la personne et la découverte de l'existence de Dieu qui ajoute alors approfondit ces six éléments en apportant ce septième élément, le point de vue de la vertu de religion ou l'acte religieux, l'acte d'adoration. Et c'est tellement profond que ça fait une synthèse de ces six éléments d'une façon tout autre. Et je crois que ça, c'est très important, comprendre ça. Parce que c'est ce septième élément qui montre comment la grâce chrétienne n'est pas contraire à la personne humaine. Si cet élément religieux n'existe pas, comme certains l'affirment aujourd'hui, hein, cet élément religieux n'existe pas, bien l'attitude chrétienne n'a plus de disposition. Et le point de vue chrétien apparaîtra comme anti-personnaliste. Oui. Il faut comprendre comment on peut arriver à une attitude d'opposition ouverte au christianisme et voir quel est le métaxu juste, exact, qui permet de comprendre que l'attitude chrétienne ennoblit l'homme, la personne humaine, lui donne une nouvelle physionomie et ne détruit rien de la personne humaine. Et ça, je crois que c'est très important à bien saisir. Et c'est la philosophie qui doit le faire saisir, ça. Nous avons vu, point de vue philosophique, hein, voyez bien, la démarche philosophique, au point de vue philosophique, la découverte de la métaphysique. Dans la découverte de la métaphysique, de la substance et de l'acte, on peut découvrir cette première manière dont nous vivons personnellement notre vie humaine, avec ces six dimensions, l'autonomie, l'intelligence, la volonté, la prudence, l'art, le corps. Bon, ces six éléments sont présents pour tout homme. Il y en a un septième qui s'ajoute dès que nous découvrons l'existence de Dieu. Quelle est notre attitude en face de l'existence de Dieu ? L'attitude religieuse. L'attitude religieuse est humaine. Elle n'est pas, fondamentalement, elle n'est pas chrétienne. Elle est humaine. Et c'est très important de se rappeler ça. Donc celui qui nie l'attitude religieuse télescope dans l'homme une dimension essentielle. Donc toute sa construction sera fausse. Il faut, au point de vue philosophique, être très net là-dessus. Le point de vue religieux est fondamental. On peut très bien le comprendre de diverses façons, mais il est fondamental. Le nier, c'est amputer l'homme, la nature humaine. C'est pas seulement pas être chrétien, mais c'est, au point de vue philosophique, donc au point de vue humain, c'est très grave. Ce n'est plus regarder l'homme tel qu'il doit être. Et c'est très, très important, ça, d'en avoir la conviction, n'est-ce pas ? Il faut que pour vous, ce soit une vérité, mais évidente. Si elle n'est pas évidente, notez ce qui ne la rend pas évidente chez vous. pour que on puisse enlever les obstacles et découvrir que c'est essentiel. Ça, je crois que c'est très très important. Dans le monde d'aujourd'hui. Et l'attitude, par exemple, d'un président de la République aux États-Unis, qui reconnaît l'existence de Dieu, même s'il n'est pas catholique, il est protestant, mais même s'il n'était pas protestant, il reconnaît l'existence de Dieu. Et l'attitude de certains qui nie l'existence de Dieu. Bon, il faut comprendre que philosophiquement, je ne parle pas au point de vue chrétien, philosophiquement, celui qui nie l'existence de Dieu, incipiens, dixit in corde suo non est Deus, incipiens, traduisez incipiens comme vous voulez, l'insensé. L'insensé. C'est dans le psaume, évidemment. Pour nous, c'est une valeur de vérité divine, mais c'est ça une valeur de vérité humaine. Incipiens. L'insensé. Il n'y a rien de plus insensé que ça, que dire Dieu n'existe pas. Celui qui dit dans son cœur, Dieu n'existe pas. Et non seulement dans son cœur, mais qu'il proclame. C'est un insensé. Parce que l'intelligence humaine est faite pour affirmer l'existence de Dieu. À différence de l'élevage. Donc, l'insensé, il tombe dans le domaine animal. La fureur de l'insensé est plus terrible que la fureur d'un taureau. Parce que il a nié une vérité. Je crois que ça, il faut être là-dessus aujourd'hui très net. Tu vois. Comme pour l'existence de l'âme. Sûrement qu'il y a tout un courant devant lequel nous nous trouvons, qui veut affirmer que affirmer l'âme, c'est une question de foi. Bien, pour nous, non. Affirmer l'âme est une question philosophique, comme affirmer l'existence de Dieu. C'est une question philosophique. Donc c'est une question premièrement humaine. Si on fait de la philosophie, c'est pour ça. C'est pour affirmer que l'âme existe et que Dieu existe. L'affirmer en tant que chrétien, c'est évident. Ça fait partie de la foi chrétienne. Mais ça fait partie, selon la vérité, des preambula fidei. La foi se fonde sur le fait que l'intelligence humaine reconnaît que nous avons une âme spirituelle et elle reconnaît que Dieu existe. Bon. Alors, nous arrêtons un moment avant de prouver l'existence de Dieu sur les diverses façons dont la personne humaine se présente à nous. La première façon qui est fondamentale, c'est l'homme et la femme. La personnalité de l'homme et de la femme sont diverses. Alors, il faut bien comprendre quand je dis diverses. Faisons attention, elles sont les mêmes au point de vue de l'intelligence, au point de vue de la volonté, au point de vue de la prudence, ah déjà, c'est divers. Au point de vue artistique, c'est également divers. C'est ça qui est important à voir. C'est un sujet sur lequel le souverain pontife a beaucoup insisté dans ses premiers écrits, en voyant que, aujourd'hui, au point de vue éducatif, on fait de graves erreurs. On éduque de la même façon un garçon et une fille. Par le fait même, on ne respecte pas leur nature. Et parce qu'on ne respecte pas leur nature, on aboutit nécessairement à des conflits. C'est-à-dire qu'au fond, ne respectant pas cette distinction fondamentale dans l'ordre de l'éducation, l'éducation, c'est d'arriver à former une personne. Tant qu'on n'est pas une personne consciente, capable de se diriger, ben, on doit demeurer dépendant de quelqu'un. On ne peut pas avoir son autonomie. Et c'est beaucoup plus grave qu'on ne le pense de vouloir la même éducation du garçon et de la fille, c'est donc contrarier la nature humaine. Et contrarier la nature humaine, c'est nécessairement conduire à des explosions, à des révolutions, à des oppositions fondamentales. Et la tendance très nette aujourd'hui, c'est de mettre la même éducation. Donc, de ne pas vouloir regarder cette distinction fondamentale, je dis bien fondamentale, puisque ça regarde le point de vue du corps et non pas l'âme. L'âme de la femme et l'âme de l'homme sont diverses à cause de leur éducation, à cause de leur développement, mais substantiellement sont les mêmes. Et si on ne distingue plus la métaphysique et l'éducation, on aura la tendance de dire qu'ils doivent être éduqués de la même façon. En éduquant l'homme et la femme de la même façon, nous perdons tant du côté de l'homme que du côté de la femme ce que Dieu a voulu, ça je ne peux pas le dire tout de suite. Nous oublions une réalité fondamentale qui s'impose à nous. Je n'ai pas choisi d'être un homme. Je n'ai pas choisi d'être une femme. Il y a des femmes qui, toute leur vie, regrettent de ne pas être un homme. Et il y a des hommes, toute leur vie, qui regrettent de ne pas être une femme. Bon, c'est un manque de réalisme. Tout simplement. Et le réalisme, le premier qui nous accompagne. On doit être heureux d'être une femme, être heureux d'être un homme. Vous voyez ? Mais vous voyez, c'est très symptomatique, n'est-ce pas ? Toutes les déformations actuelles. Des hommes qui veulent paraître des femmes, des femmes qui veulent paraître des hommes. Dans le bois de Boulogne, il y a un de nos pères qui s'occupe de ça le soir, et dit, c'est affolant de voir ça. De voir ce manque de respect premier de la nature humaine. et qui par le fait même, voyez, font que l'éducation, à la place de développer les richesses fondamentales, l'éducation va contre cela. Il y a une espèce de volonté de supprimer cette différence première qui s'impose à nous. C'est tout à fait inutile de pleurer pour un homme de ne pas être une femme et pour une femme de pleurer de ne pas être un homme. C'est un faux problème. C'est un manque de réalisme, tout simplement. Donc c'est un faux problème. C'est un problème imaginatif. Et vouloir une éducation qui soit tout à fait la même, est imaginatif. C'est un manque de réalisme. Et par le fait même, c'est une perte de vitesse dans les richesses à développer du côté homme et du côté femme. Et ça, c'est très important. Donc, c'est aller vers un genre qui ne sera ni homme ni femme, une éducation qui manquera de réalisme. Je crois qu'il faut au moins regarder ça au point de départ. Parce que c'est actuel, ça. C'est très actuel. On a peut-être trop séparé, c'est vrai. Regardez dans les civilisations primitives, on sépare peut-être de trop. Alors on fait de la femme une servante, on oublie qu'elle est une personne. On fait de la femme une esclave, on oublie qu'elle est une personne. Ça, c'est vrai. Donc, on doit combattre cela. Mais combattre cela jusqu'à un certain point, parce qu'on tombe alors dans l'extrême. De faire que ce sera l'éducation tout à fait semblable et qui fait que le progrès de la culture humaine consiste à supprimer la distinction. Vous voyez, il y a un réalisme humain que le philosophe doit rappeler. Pourquoi Dieu a-t-il... Je ne me pose pas la question, Dieu, c'est pour moi. Pourquoi y a-t-il cette distinction de l'homme et de la femme? Et en quoi elle doit exister? Et en quoi elle doit être dépassée? La distinction de l'homme et de la femme provient, du moins, est finalisée par la procréation. Ça, je crois que c'est l'affirmation qui s'impose. C'est la vraie. Vous voyez, vouloir trouver un autre moyen pour que l'espèce humaine continue d'exister, c'est au fond une négation de la distinction de l'homme et de la femme. Et c'est donc c'est très actuel. C'est une des choses qui se pose un problème, hein, direct pour nous. Distinguer l'homme et la femme, c'est par rapport à la procréation. Donc, il faut tout de suite regarder par rapport à la procréation comment cette distinction doit être respectée et en voir toutes les conséquences. Ne pas vouloir respecter cette distinction, ce qu'on essaie aujourd'hui du moins, ce que certains essaient de faire, c'est de vouloir garder une maîtrise artistique faite par l'homme pour changer l'espèce humaine. C'est au fond un orgueil fou qui consiste à ne pas respecter une distinction qui s'impose à nous et qui nous échappe. On doit la respecter. Pour la procréation, la femme a un rôle tout autre que l'homme. Alors, vous voyez, c'est tout de suite la distinction par rapport au corps. Or, on a vu que le corps était une modalité substantielle. Donc, si le corps est en vue de la procréation, la distinction est en vue de la procréation, c'est une distinction donc très fondamentale au point de vue du conditionnement. Conditionnement substantiel. Donc, ça a nécessairement une répercussion sur tout le développement de la personne humaine. Ça ne peut pas être autrement. Puisque c'est une distinction qui touche à la finalité corporelle. Dans l'ordre de la finalité corporelle, qui est la procréation, le rôle de l'homme et de la femme sont totalement différents. La différence très visible, c'est que il y a d'un côté une immanence complète et de l'autre côté une liberté. Terrible. Terrible, vous voyez dans quel sens je veux dire, c'est que l'homme ne voit pas suffisamment que lorsqu'il y a le point de vue de la conception, lui, il s'en libère. Et la femme ne peut pas s'en libérer sans commettre, il faut appeler les choses par leur nom, sans avoir à commettre un acte qui supprime l'enfant et donc qui la rend coupable de quelque chose de très fondamental. Je crois que c'est ce point de vue-là qui est premier dans la diversité. Tout est ordonné pour la femme à la procréation immanente en elle. Elle porte l'enfant pendant 9 mois. Et ça, c'est capital. C'est quelque chose de fondamental. Tout est ordonné à cela. Tandis que l'homme en est libre. Il en a eu l'initiative, mais il en est libre. Et donc, à l'égard de leur consentement, on voit que les conséquences sont tout autres. Et donc, il y a une décision humaine, personnelle, qui est toute différente. dans ses conséquences. La femme porte le fruit de la conception. Elle est le lieu naturel à la procréation. Et étant ce lieu naturel à la procréation, elle est donc beaucoup plus proche du fruit de la procréation de l'enfant que l'homme. Elle est toute relative à lui. Point de vue physique. Étant toute relative à lui au point de vue physique, cette première éducation lui revient. Et cette première éducation, on sait l'importance de cette première éducation. Donc, elle a une responsabilité vis-à-vis d'un acte humain très important. Être père ou mère, c'est quand même un acte humain très important, puisque ça touche à l'espèce humaine dans son premier moment, dans sa première éducation. Je crois que là, on ne réfléchira jamais assez sur la très grande diversité des deux, qui fait que tout de suite, on voit que la mère est prise par cet enfantement de l'enfant, cette formation de l'enfant, que c'est son fruit. Et cette expression que j'avais trouvée très belle de cet homme qui me parlait de son épouse, elle m'a donné 3 enfants, elle m'a donné 4 enfants, quand il parlait de son épouse et de ses enfants. Elle m'a donné. J'ai trouvé ça, c'est très beau d'un homme qui était le gardien des cèdres du Liban. Alors, le gardien des cèdres du Liban, un père de 8 enfants, je crois. Et il me racontait son histoire. On s'était pris d'amitié ensemble. Et il revenait toujours sur ça. Et c'est vrai, elle m'a donné 3 enfants. Et on sentait que pour lui, c'était ça, ce respect vis-à-vis de son épouse, c'était que son épouse lui avait donné 3 enfants. Et que tous ses enfants, c'était par son épouse. Et ça faisait un regard tout à fait différent. C'est tellement perdu, ça. Que j'ai retenu, parce que ça, quand il me parlait de ses 7 ours du Liban et de ses enfants, et les 7 ours du Liban étaient d'autres enfants pour lui, c'était des enfants au point de vue artistique, au point de vue de toute sa manière d'être gardien de ses cèdres et gardien de ses enfants. Je crois qu'il faut voir d'une façon très vraie combien la femme est liée à la maternité, combien elle a comme un épanouissement particulier profond de tout elle-même est un prolongement de sa vie, qui est vrai aussi du Père, mais qui est infiniment plus vécu par la femme. Le Père se rattrapera après pour l'éducation. Mais la première éducation du tout petit, c'est vraiment la femme, c'est vraiment la mère. Marie, dès qu'il y a éducation, dès qu'il est né, les deux peuvent évidemment s'aider. C'est une œuvre commune, mais elle est premièrement du côté de la mère. Et ça explique comment, quelquefois, les liens de la mère et de l'enfant sont tellement forts que la séparation psychologiquement ne se fait pas. Et dans un certain genre d'éducation, l'enfant demeure trop lié à sa mère. Je crois que cette bavure, cette erreur est très significative. Parce que ça montre combien la personnalité de la mère, de la femme, a quelque chose d'unique. On ne peut pas la remplacer. C'est quelque chose d'unique. Et ce quelque chose d'unique est à l'égard de la procréation, donc à l'égard non pas de la finalité. La finalité propre de l'homme, ce n'est pas avoir des enfants, mais c'est une finalité seconde. La finalité de l'homme, c'est chercher la vérité. Donc, au point de vue finalité de l'intelligence, finalité du cœur, il n'y aura pas de changement directement, mais il y a du côté matériel, du corps, une modalité substantielle différente. Et cette différence va se répercuter dans la première éducation et dans toute l'éducation de la femme, du garçon et de la fille. Alors, on peut, à partir de là, dans cette première diversité, comprendre comment la mère a un sens beaucoup plus direct vis-à-vis de l'enfant, vis-à-vis du développement de la première éducation de l'enfant. Or, cette première éducation est très importante puisque c'est tout de suite la relation du corps et de l'âme qui est en cause. La mère est très proche de l'instinct du petit et du développement de son instinct. Et développement de son instinct qui doit être dépassé par un point de vue humain. Une mère louve n'est pas une mère véritable, humaine. L'animal ne développe que l'instinct. La mère doit, à partir de l'instinct, découvrir le dépassement qui est d'abord un dépassement affectif, puis un dépassement de l'intelligence pour que l'enfant arrive à un âge de raison. Je crois, jusqu'à ce moment-là, la distinction au point de vue éducatif est très différente. Parce que la mère, étant beaucoup plus proche du corps, comprend beaucoup mieux tout l'aspect instinctif, tout l'aspect spontané. Et elle peut agir beaucoup plus sur l'éducation, cette première éducation, qui est l'éveil à partir du sensible, l'éveil de quelque chose d'au-delà du sensible, le point de vue de l'intelligence et le point de vue du cœur. Et cette première éducation, elle est capitale. Et c'est toujours les rapports de l'intelligence et du corps. Et comme la mère est beaucoup proche du corps, elle a beaucoup plus le sens de la possibilité de l'éveil de l'intelligence et du cœur par rapport à la sensibilité. Et ce premier éveil, c'est la mère. Normalement, quelquefois c'est le père. Quand la mère n'est pas suffisamment éduquée pour ça, alors c'est le père qui la remplace. Mais ça se fait moins bien. Parce que la mère a beaucoup plus le sens de l'immanence. Cette immanence continue entre la mère et l'enfant. Et quelquefois, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va trop loin. Mais normalement, l'immanence est beaucoup plus grande. À partir de l'éveil de l'intelligence et de la volonté, le rôle du père, de l'homme, devient de plus en plus important. Et je crois que là, il y a un moment extrêmement important où la mère peut arriver à garder l'enfant pour elle et empêcher cette intervention du mari, l'intervention du père, qui est nécessaire. Et sûrement que c'est différent pour la petite fille et le petit garçon. Alors ça, je n'entre pas dans le détail, mais c'est très différent. Et cet éveil de l'intelligence est différent chez l'un et chez l'autre. Et je crois que quand on ne tient pas compte de cette différence, forcément, on ne saisit pas avec suffisamment de netteté la différence qu'il va y avoir entre le petit garçon et la petite fille dans l'ordre de l'éducation, dans l'ordre des goûts, dans l'ordre aussi de ce qui est propre à l'un et propre à l'autre. Je crois que là, le lien entre l'aspect affectif et l'aspect intellectuel est différent. Quand de fait, on ne veut pas voir cette distinction. Au contraire, on veut une note dominante dans une éducation purement scientifique. On tend vers cela, on tend vers une éducation qui soit commune et qui soit purement scientifique. Les mathématiques ne sont ni masculines ni féminines. Il ne faut jamais oublier ça. Les mathématiques sont Et les mathématiques faites par une femme sont beaucoup plus intuitives et par un homme sont plus rationnelles. Ah, alors c'est peut-être là on va tout de suite voir une distinction entre les deux qui demeure. La femme sera beaucoup plus portée vers l'intuition, le dépassement sensible se fera par l'affectivité intuitive. L'homme, le petit garçon, très vite, a plus besoin d'un développement rationnel. Et vous voyez, c'est un plus et un moins. Ce n'est pas une diversité. Il n'y a pas des mathématiques féminines. Il n'y a pas des mathématiques masculines. Il n'y a pas de science féminine. Donc là, il n'y a pas de diversité. C'est du plus et du moins. La vraie diversité, c'est le point de vue de la procréation. Alors là, on peut dire qu'il y a vraiment une coopération qui nécessaire pour que ça puisse exister. Donc, c'est entre l'immanence vitale, la vie est immanente, hein, et une liberté plus grande, une transcendance. Et je crois que ça, là, il y a vraiment diversité de points de vue qui se répercute et qui doit se répercuter un peu dans tout le développement. Et ne pas vouloir voir ça, c'est aller contre la nature. Parce que très vite, cette diversité va se traduire dans le développement de l'intelligence et le développement affectif, volontaire. L'immanence est normalement beaucoup plus affective et le point de vue de l'intelligence, c'est au contraire quelque chose qui demande une division, une séparation plus nette et un sens de ce qui est transcendant, rationnel, beaucoup plus développé. Et cela se répercute forcément dans toute la vie. Il y a un sens de l'affectivité, puisqu'elle est plus immanente, beaucoup plus grand. Chez l'enfant, la petite fille ou le petit garçon, normalement, puisque au fond, au point de vue de l'intelligence et du cœur, c'est en raison de ce premier devenir différent qu'on verra la diversité du plus et du moins. Et cette diversité du plus et du moins va se faire sentir de plus en plus, forcément. Alors, il y aura ce sens beaucoup plus aiguisé, beaucoup plus fort de l'immanence, de l'affectivité. Et une émergence de la raison qui sera plus difficile à se réaliser. Et très facilement, le point de vue raisonnement sera remplacé par une intuition affective beaucoup plus grande. Mais oui, ça, c'est des conséquences. Ça ne fait pas une diversité de personnes. Ça fait tout simplement une façon différente de regarder ce qui nous arrive, ce qui vient de l'extérieur. L'homme est beaucoup plus capable de regarder ce qui vient de l'extérieur, ce qui est autre, que la femme qui le saisit toujours de l'intérieur. Et c'est très curieux à remarquer cela. Et ça fait vraiment une modalité différente. Oui, autrement dit, toute notre personnalité propre, elle se traduit par la diversité entre l'intelligence et la volonté. Pour chacun d'entre nous, il y a entre notre intelligence qui se développe et notre volonté qui se développe, il y a une diversité du côté de l'alliance de l'affectivité pour l'intelligence et de l'intelligence pour l'affectivité. C'est là le nœud principal du développement de la personne. Et la personnalité humaine est avant tout dépendante de ça. Et quelquefois, l'affectivité est telle que l'intelligence ne peut pas se développer. Il est sûr que du côté maternelle, l'affectivité a été beaucoup plus forte et que la petite fille a un développement beaucoup plus grand du côté de l'affectivité. Et le développement de l'intelligence vient ensuite. Et parce qu'il est devancé par l'affectivité, c'est beaucoup plus l'intelligence intuitive qui se développe. Tandis que pour le garçon, c'est plus la séparation. C'est donc plus le point de vue objectif de la diversité objective qu'il verra, beaucoup plus que la continuité. Et toutes les diversités à l'intérieur du foyer viennent de cela. On voit tout de suite la diversité du point de vue de l'intelligence. Mais encore une fois, cette diversité ne fait pas une diversité de la personne. Il y a les dispositions. Mais c'est de l'ordre de la disposition. C'est pas de l'ordre d'éléments différents. La diversité profonde, elle vient justement par rapport à la procréation. C'est vraiment ça qui fait la grande diversité de l'un et de l'autre. Et c'est cela qui, aujourd'hui, est attaqué, voyez. C'est ça qui est important à voir au point de vue philosophique. C'est cela qu'on voudrait supprimer. En disant, on peut très bien avoir une génération qui soit en dehors de la mère. Et par le fait même, on aurait un type d'homme qui serait différent, puisqu'il n'y aurait plus la dualité. Et on ne s'aperçoit pas qu'en faisant ça, on supprime une très grande richesse. Parce que cette diversité de l'homme et de la femme est commandée par une unité plus forte. Cette diversité très forte du côté corps, du côté génération, est dépassé par une finalité commune. Finalité d'amitié, finalité contemplative. Elle est la même finalité du côté amitié. La femme a plus besoin encore d'amitié que l'homme. Mais elle a besoin d'amitié comme l'homme a besoin d'amitié. Mais c'est uniquement donc une modalité du plus et du moins. Mais c'est la même. C'est la même amitié. Il n'y a pas une diversité. Mais elle est plus affective. Elle est plus rationnelle. Donc, il n'y a pas de diversité. C'est pour ça que la diversité fondamentale du point de vue génération est dépassée par l'unité de finalité qui est la même. Amitié, première finalité. Recherche de la vérité, seconde. Ce qui fait que si le point de vue de l'amitié est très développé, il y aura donc une unité beaucoup plus grande. Et si la recherche de la vérité est très développée, il y aura une unité beaucoup plus grande. Vous voyez ? Ça fait comprendre que les civilisations plus développées au point de vue amitié et au point de vue recherche de la vérité font que l'homme et la femme sont beaucoup plus unis dans un même travail, dans un même désir d'amitié. Il y a quelque chose de commun là, qui fait l'unité. Donc le poids de l'unité est beaucoup plus grand que le poids de la diversité. Le poids de la diversité est très net et matériellement, quant au corps, il est donc très fort. Mais le développement de l'intelligence et le développement de la volonté tend à faire que l'unité soit de plus en plus grande. Donc, c'est normal, dans une culture très développée, que la diversité de l'homme et de la femme tend à s'estomper. Mais le réalisme maintient la diversité. L'idéalisme à faire l'unité. Et plus l'intelligence s'idéalise, plus l'unité est sensible et visible.